Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse à l'abbé Berthollon à travers le livre de Jean-Paul Poirier intitulé « L'abbé Berthollon, un électricien des Lumières en province », livre paru aux éditions Hermann en 2008. Jean-Paul Poirier, bonjour.
Bonjour.
Merci de revenir au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes, physicien émérite de l'Institut de physique du Globe de Paris. Les auditeurs de Canal Académie peuvent vous entendre au cours de plusieurs émissions que j'ai eu le plaisir d'enregistrer à vos côtés. Le noyau terrestre, mais également un portrait consacré à Antoine d'Abbadie et puis également une émission consacrée à votre ouvrage « Mystification à l'Académie des sciences » avec la question suivante « Newton a-t-il plagié Pascal ?» Mais aujourd'hui, dans cet Au fil des pages, c'est de l'abbé Berthollon dont nous allons esquisser le portrait. Un inconnu aujourd'hui, tellement inconnu qu'on ne le trouve plus dans le dictionnaire, que sa date de naissance est souvent erronée, que l'on appelle souvent Nicolas au lieu de Pierre, alors qu'au XVIIIe siècle, c'était un people, comme on dirait aujourd'hui. Alors, puisqu'il est aussi méconnu aujourd'hui, comment vous, Jean-Paul Poirier, avez-vous fait sa connaissance ?
Ah, c'est une assez longue histoire. Je l'ai découvert pour la première fois parce que je m'intéressais bien sûr au tremblement de terre et qu'il a été un des grands propagateurs à l'époque de l'idée que les tremblements de terre étaient électriques. C'était la mode de l'électricité et il a proposé un paratremblement de terre sous forme d'un paratonnerre inversé, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il était rédacteur d'une revue scientifique dans le Midi de la France. Et au moment de la chute d'une météorite dans la région, il a fait signer un procès-verbal par les notabilités locales pour dire que la pierre était tombée du ciel. Et il a dit, voyez, ces pauvres gens, quand même, si c'est pas malheureux d'entendre ça à notre époque, en pleine époque des Lumières, pensez qu'il y a encore des gens qui font tomber des pierres du ciel. Il avait tort, bien sûr. Voilà donc les deux occasions à laquelle je l'ai rencontré. Et puis, finalement, je me suis dit que c'était un personnage peut-être intéressant et que ça vaudrait la peine d'aller fouiller un petit peu, ce que j'ai fait.
Alors, vous avez parlé à l'instant des tremblements de terre. On abordera bien sûr cette question-là, très intéressante, très curieuse d'ailleurs. Donc, nous allons le voir rapidement ensemble. L'abbé Berthollon est un touche-à-tout, si je peux me permettre l'expression. Alors, s'il n'a pas réalisé d'invention ou fait de grandes découvertes, qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rappelle pas forcément de son nom. La plupart de ses mémoires portent sur l'électricité artificielle et atmosphérique, et également les météores, vous en parliez à l'instant. Plus curieux, il s'intéresse à la cause électrique des tremblements de terre, cause électrique. Également, il s'intéresse à l'électricité des végétaux, on en parlera aussi ensemble. Donc bien sûr, on l'a compris, c'est l'électricité qui prime. Vous le disiez aussi, c'est une époque où on s'intéresse beaucoup à l'électricité, dans les salons, on réalise des expériences, c'est assez drôle. Et donc, trois ouvrages essentiels portent sur cette question d'électricité. On va en parler tout de suite. Premier ouvrage paru en 1780 de l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. Là aussi, j'aimerais qu'on en parle. De l'électricité des végétaux en 1783, j'en parlais à l'instant. Et le troisième, de l'électricité des météores paru en 1787. Donc trois titres qui en disent déjà long sur ses recherches et des textes traduits en plusieurs langues. Est-ce que vous avez lu ces ouvrages ? J'imagine que oui. Et si on s'intéresse au premier, de l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ?
Eh bien, bon, comme nous l'avons dit à l'instant, c'était la mode à l'électricité. Donc on cherchait à la mettre un petit peu à toutes les sauces et à expliquer beaucoup de choses par l'électricité. Une petite parenthèse, il faut noter aussi que Franklin avait inventé le paratonnerre et que l'abbé Berthollon est le premier qui a installé des paratonnerres à Paris.
Il le fait en 1749, je crois, Franklin.
Oui, mais donc il est arrivé à Paris en 1776 et c'est seulement en 1779 que Paris a eu ses premiers paratonnerres grâce à l'abbé Berthollon. Mais revenons à l'électricité médicale. dès l'instant où on a compris avec la bouteille de LED que ça donnait des chocs, on a pensé que peut-être les chocs électriques pouvaient guérir des paralysies, puisque ça donnait un peu des contractions, ça permettait. Et les premiers, ça a été très vite, l'abbé Nollet, qui est plus connu que Bertholon, qui n'a pas fait grand-chose de plus, mais qui est plus connu parce qu'il était parisien, sans aucun doute, l'abbé Nollet a essayé de donner des chocs à des paralytiques. Bon, ça n'a pas beaucoup marché, et puis finalement, on a essayé aussi, il y avait les machines électriques, les machines à frottement, qui donnaient de l'électricité statique, comme on peut voir au Palais de la Découverte, encore maintenant. Et on pensait que peut-être baigné dans une atmosphère électrique, il y a un tas de maladies qui pourraient être soignées. On pensait également que, bien sûr, l'électricité naturelle, puisqu'on connaissait la foudre, pouvait aussi faire beaucoup de bien dans certains cas, suivant qu'on était déficient ou surabondant en électricité naturelle. Bon, le corps humain était bon. Donc c'est ce que l'abbé Bertholon a essayé de voir dans un gros volume qui a eu un succès fou.
Qui a reçu d'ailleurs un prix à l'Académie.
Oui, absolument, des prix à l'Académie, dans les académies de province. Et il a donc pensé qu'il a fait la liste des maladies, et en disant, voilà, telle maladie est une maladie qui est un peu venant d'un excès d'électricité, donc peut-être l'électricité négative pourrait la soigner. Par contre, tel autre excès, telle autre maladie, par exemple, on n'a pas assez d'électricité, des maladies un peu de langueur, des maladies où on était un peu traînant, les paralysies, etc. Donc on pouvait là être soigné par l'électricité positive, et même éventuellement des chocs. Donc il a commencé très tôt avec ça. Dès qu'il est arrivé à Béziers, où il était professeur, il a commencé à soigner du mal de dents. Et il a trouvé que ça marchait très bien. Bon. Et puis, je ne pense pas qu'il ait jamais essayé de soigner des paralysies, mais d'autres l'ont beaucoup essayé. Il y a une époque où on a vraiment... Alors, il y en a qui y croyaient, d'autres qui n'y croyaient pas, et d'autres qui y croyaient sans y croire.
J'ai cru comprendre en lisant votre ouvrage que la plupart des scientifiques adhéraient totalement à cette thèse.
Il y avait un scientifique un peu marginal qui était considéré comme un farfelu, ce qu'il était dans une certaine mesure, mais pas complètement. Et c'était justement Jean-Paul Marat, qui est plus connu comme révolutionnaire que comme scientifique, mais qui avait beaucoup d'esprit critique et qui avait expliqué les choses comme ça, il avait pris parti contre justement cet ouvrage de Bertholon, en disant que ça pouvait être extrêmement dangereux et que finalement, il y avait beaucoup de cas où il avait fait des expériences où il trouvait que l'électricité ne faisait rien du tout. Il ne rejetait pas complètement le bébé avec l'eau du bain, mais il était extrêmement prudent.
Pourtant, au XIXe siècle, Jean-Martin Charcot, qui soignait l'hystérie, a travaillé aussi en soignant l'hystérie à travers l'électricité.
Il a fallu longtemps, et un des grands pionniers de la neurologie, qui est Duchesne de Boulogne, a parlé. Alors, il a dit, bien sûr, que l'électricité statique ne marchait pas beaucoup, mais il faisait des choses avec des électricités dites dynamiques, enfin des bobines de Ruhmkorff et des choses comme ça. Et ma foi, il a fallu très longtemps. Et d'ailleurs, il y a pas encore si longtemps, maintenant ça commence à être un peu discrédité, mais enfin des électrochocs étaient encore utilisés, et peut-être le sont-ils encore quelquefois.
Alors, je le disais au début de cette émission, l'abbé Bertholon est devenu quelqu'un de totalement inconnu, on ne le trouve plus dans le dictionnaire, la date de naissance est erronée, il est né en 1742, 1741, on l'appelle Nicolas au lieu de Pierre, et puis également il y a aussi un flou concernant sa potentielle rencontre avec Benjamin Franklin. Vous nous en parliez à l'instant. Alors, oui ou non, a-t-il rencontré Benjamin Franklin pour ensuite promotionner le paratonnerre en France ?
Oui. Alors, bon, c'est lui, effectivement, qui a construit les premiers paratonnerres, d'abord à Lyon, et puis dans beaucoup d'endroits, on lui demandait de les construire, enfin de surveiller la construction, et en particulier à Paris, dans deux endroits qui étaient un couvent de dames nonnes qui était près du métro Cardinal de Moine maintenant, et puis un hôtel qui est maintenant l'hôtel de l'ambassade d'Angleterre. Et on a donc pensé, comme c'était le grand promoteur des paratonnerres, on a donc pensé qu'il avait rencontré Franklin et que c'était un ami, comme il était ami avec beaucoup de gens. Moi, ça me paraît très improbable. D'abord parce que qu'il ait rencontré Franklin, c'est possible. Mais que Franklin l'ait bien connu, ou Franklin rencontrait évidemment beaucoup de monde, Et parce que j'ai trouvé une lettre parmi la correspondance de Franklin, une lettre où il écrivait à Franklin en se présentant et en lui en étant très très respectueux, en lui demandant son avis sur telle chose. Donc, il est peu probable qu'il était ami de Franklin, qu'il l'ait rencontré. C'est bien possible, c'est même bien probable, mais qu'il était ami de Franklin, comme on le trouve dans certaines notices biographiques du XIXe siècle, ça me paraît difficile.
Dans votre livre, vous qualifiez l'abbé Berthelon le Franklin du Languedoc. Alors, est-ce que c'est vous qui le qualifiez ou est-ce que c'était le nom qu'on lui donnait au XVIIIe siècle?
C'est une expression que j'ai mise entre guillemets, que j'ai trouvée dans une notice biographique de l'époque où on disait le Franklin du Languedoc, parce que c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'électricité, qui mettait des paratonnerres. Le Franklin est égal paratonnerre. Et comme il n'était pas languedocien, il était lyonnais d'origine, mais il a passé toute sa carrière à Béziers et à Montpellier. Donc, c'était la notoriété locale, le Franklin du Languedoc. Voilà.
Il a promotionné le paratonnerre. Et puis, quelques années plus tard, il a une hypothèse. Alors, bien sûr, on est dans une période où tout ce qui est dans le domaine scientifique est en ébullition. Il faut rappeler qu'en 1750, à Londres, il y a un tremblement de terre et que l'hypothèse qui commence à émerger est une hypothèse que la source des tremblements de terre soit électrique. Jusqu'à présent, on pensait que c'était comme une tempête, un ouragan sous terre qui était provoqué par des souffles que l'on retrouvait dans les cavernes et qui cherchaient à s'échapper. Là, en 1750, on pense que c'est peut-être quelque chose d'électrique. Et cette thèse, Berthelon y adhère totalement et va penser à un para-tremblement de terre. Vous pourriez nous en dire un peu plus?
Oui. Alors, bien sûr, il faut remonter effectivement à la théorie d'Aristote qui disait que les tremblements de terre étaient dus à des tempêtes souterraines, à des vents, des exhalaisons qui ébranlaient le sol parce qu'ils cherchaient à sortir. Alors, il y a une certaine logique dans le fait de penser que c'était électrique. Cette logique est la suivante. Étant donné qu'on pensait depuis Aristote, Pline, etc., que c'était une tempête souterraine, comme on savait depuis récemment que les tempêtes aériennes et les orages étaient dus à l'électricité, de là à dire que les tempêtes souterraines étaient également dues à l'électricité, il n'y avait qu'un pas, et ma foi, c'est une certaine logique. Bon, alors, il a donc pensé que c'était des concentrations d'électricité qui se déchargeaient, un petit peu comme un coup de foudre, et qui ébranlaient le sol. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est un Anglais, Stukeley, mais lui a vraiment poussé énormément. Il a écrit un grand mémoire en 1779 et il a proposé la chose évidente, c'est-à-dire comme on mettait des paratonnerres pour, comme on disait à l'époque, soutirer l'électricité des nuages pour les rendre inoffensifs. Il disait, voilà, il suffit de soutirer l'excédent d'électricité de la Terre en mettant un paratonnerre à l'envers, en quelque sorte, avec des pointes qui s'enfoncent dans la Terre et puis qui déchargent doucement ce supplément d'électricité dans l'atmosphère. Et alors, ça a eu personne ne l'a vraiment essayé, mais ça a eu un grand succès. Buffon a trouvé que c'était une excellente idée. Et puis, en 1783, il y a eu ce grand tremblement de terre en Calabre, qui était extrêmement important. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Et le premier médecin de la cour de Sicile a écrit tout un ouvrage pour parler un petit peu de ce tremblement de terre, des causes, et il a commencé en traduisant le mémoire de Berthelon, en disant, voilà, je ne saurais mieux faire que de commencer en disant, en répétant ce qu'a dit un illustre savant français, etc. Donc, voilà l'idée. Alors, tout le monde, il y a eu beaucoup de succès, tout le monde n'était pas d'accord. Encore un qui n'était pas d'accord, c'était Marat. Parce que Marat, avec beaucoup de bon sens, a dit « mais enfin, ça ne tient pas debout, il ne peut pas y avoir de concentration d'électricité dans la Terre, puisque la Terre est un conducteur, c'est le réservoir commun, donc on ne peut pas concentrer d'électricité dans un endroit, elle se répartirait immédiatement partout. » Donc cette idée n'a pas de sens, il avait raison.
Mais j'imagine que c'est le siècle des expériences, hein. On prouve les choses par expérience, j'imagine que des expériences ont été menées avec ce para-tremblement de terre,
non,
ou para-volcan
aussi. Je crois que personne ne l'a vraiment essayé, du moins à ma connaissance. On disait que c'est très bien, faudrait le faire. Alors, on parlait même du coût, instrumenter comme ça toutes les régions sismiques, en Italie par exemple, on imagine que ça peut être utile. Et puis bon, c'est resté un peu d'une idée extrêmement intéressante, et ça n'a pas... on en a parlé, et puis finalement, c'est très vite tombé dans les poubelles de l'histoire. Et dès le début du XIXe siècle, déjà, on n'en parlait plus. Mais, un point intéressant, c'est que j'ai découvert tout récemment, en faisant quelques recherches à propos du tremblement de terre de 1887, le fameux tremblement de terre qui s'est passé en Ligurie, près de Nice. Et à Nice, il y a eu une victime, il y a eu quelques dégâts, mais les gens ont été très effrayés. Ça tombait le Mardi Gras, juste à la fin du carnaval, et donc il y avait beaucoup de monde, et ça a été bon. Donc il y a eu énormément de lettres qui ont été écrites à l'Académie des sciences, et j'ai retrouvé dans un dossier, aux archives, une lettre de quelqu'un, un monsieur qui ne se présentait pas plus que ça, et qui disait, voilà, mais alors on sait bien que les tremblements de terre, c'est probablement dû à l'électricité, etc. Et qui, 100 ans après, réinventait le paratremblement de terre de Bertholon.
Il proposait en fait une solution.
Il proposait de faire un paratonnerre à l'envers, etc. Sans citer Bertholon, qui ne connaissait évidemment pas. Mais il avait, ses idées restent, il avait réinventé le paratremblement de terre de Bertholon en 1887.
Alors, l'abbé Bertholon, on le disait à l'instant, s'intéresse au tremblement de terre, s'intéresse aussi à l'influence des fluides électriques sur le corps humain, également sur les végétaux. Il s'intéresse de la croissance des végétaux, la germination à travers les fluides électriques.
Oui, alors là, c'est une idée il y a eu quelques expériences. C'est une idée d'ailleurs qui mériterait davantage d'expériences. L'abbé Nollet avait commencé à faire quelques expériences sur la germination des graines. Si on regarde comment elles sont conçues, ces expériences, ça paraît très sérieux. On a des témoins, on électrise les plantes avec des machines électriques. Ça, c'est pas des chocs, c'est l'électrisation par des machines à frottement, par exemple. Et puis, on voit que, par exemple, ces graines poussent plus vite, germent plus vite, etc. Donc, il avait rassemblé énormément de données, de gens qui disaient que ça marchait, etc. Il a fait des expériences sans doute lui-même. Il était absolument convaincu que ça favorisait la germination, la croissance, etc. Il semble que, quand même, il se pourrait parfaitement que les plantes ne soient pas du tout indifférentes à l'électricité et que certaines recherches à l'heure actuelle tendent à montrer que peut-être ça peut faire des choses. Mais c'est extrêmement délicat et il faut être extrêmement prudent. Et ce sont des expériences très difficiles parce qu'elles sont très difficilement... Il est très difficile d'avoir des témoins, de faire exactement les choses et puis d'une expérience à l'autre, ça peut changer. Mais c'était une idée, disons, intéressante et peut-être qu'un jour ou l'autre, on la reprendra, c'est possible.
L'abbé Bertholon s'intéresse à plein de choses très différentes, essentiellement à tout ce qui est du domaine de l'électricité. Il s'intéresse aussi à l'aérostation, c'est l'époque des frères Montgolfier et il est, je crois, visionnaire. Il imagine toutes les possibilités qu'offrent les dirigeables.
Oui, alors, dirigeable peut-être pas, mais enfin, en tout cas, les ballons. Il connaissait bien les frères Montgolfier, et très très vite, alors que l'Académie des sciences à Paris a eu un petit peu de retard, elle a fait un rapport sur les possibilités des ballons, mais bon, voilà. Alors que lui, à Montpellier, a fait un rapport complet, c'est peut-être lui qui avait invité Montgolfier à Montpellier, en tout cas, Montgolfier est venu faire une petite conférence à Montpellier. Et très peu de temps après, il a sorti un petit mémoire sur les possibilités qu'offrent les ballons à la physique. Et donc, toutes les expériences qu'on peut faire en hauteur. Et il est intéressant de noter que toutes ces expériences étaient extrêmement astucieuses et que beaucoup ont été faites, en particulier par l'ascension de Biot et Gay-Lussac en 1804. Qui sont montés en ballon jusqu'à 4000 mètres. Et puis Gay-Lussac est remonté tout seul après parce que le ballon ne pouvait plus en porter deux jusqu'à 6000 mètres en regardant la composition de l'air, en faisant des mesures magnétiques, électriques, etc. Donc il avait regardé tout ça par le détail et c'était très, très astucieux.
Également un homme d'édition, il fonde le Journal des sciences utiles. Donc il a aussi ce souci d'application.
Ah oui, mais ça, c'était pas une particularité de Bertholon. Ça, c'était à l'époque, on s'intéressait beaucoup à l'application des sciences et l'Académie des sciences à Paris d'ailleurs s'intéressait énormément à l'application. Elle faisait des traités sur les métiers différents et donc c'était quelque chose qui était très sérieux. Tous les savants, même les plus théoriciens, s'intéressaient aux applications. Donc Bertholon, bien sûr, s'intéressait aux applications. Quand il était à Montpellier, il a édité le journal des sciences utiles.
un autre journal qui est alors un titre un peu plus long, Journal d'histoire naturelle par une société de gens de lettres et mis en ordre par l'abbé, monsieur l'abbé Berthelot.
Voilà, c'est ça aussi. Ou alors il y avait des articles extrêmement nouveaux, intéressants, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que Monge, qui est un savant respecté et bien connu, un des fondateurs de l'école polytechnique, a demandé, qui était un très grand savant, qui faisait des cours magnifiques, mais qui n'écrivait pas pratiquement, et il devait faire mettre en ordre l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Pankouk, l'éditeur, voulait la rendre sous forme méthodique, c'est-à-dire un dictionnaire alphabétique, ce qui n'était pas le cas pour la grande encyclopédie. Et donc, on avait demandé à Monge de faire le dictionnaire de physique. Et Monge a demandé, au bout d'un moment, l'éditeur s'impatientait, et Monge a fini par demander à Berthelot d'éditer à sa place le dictionnaire de physique, de l'encyclopédie méthodique. Ce que Berthelot a fait, mais il a vu, le premier volume est sorti, et puis Berthelot est mort en 1800, et le dernier volume est sorti en 1820, quelque chose. Bon.
Berthelot, on pourrait en parler encore pendant longtemps, même si on voit que c'est encore un personnage méconnu, mais qu'on commence déjà mieux à connaître grâce à vous. Il s'est aussi intéressé à la taille de la vigne, à la salubrité de l'air, des villes, de la théorie des incendies, et encore bien d'autres sujets, mais pour le coup, on propose aux éditeurs de lire votre livre.
Je ne saurais m'y opposer.
Dernière précision, l'abbé Berthelot était membre de l'Académie des sciences royales de Montpellier. Nous sommes une époque où il y a beaucoup d'académies des sciences de province et l'Académie des sciences royales de Montpellier avait à peu près le même statut que l'Académie des sciences à Paris.
Oui, il y avait énormément de sociétés royales en province et Berthelot était membre d'à peu près toutes, mais celle de Montpellier était très spéciale parce qu'elle était associée à l'Académie des sciences de Paris et de statut égal. Ce qui voulait dire, peut-être pas grand-chose, mais qui voulait dire que, par exemple, les membres de la Société royale de Montpellier pouvaient venir à l'Académie, parler, présenter des mémoires, et qui n'étaient pas, ce n'était pas comme ce qu'on appelait les savants étrangers.
Eh bien, Jean-Paul Poirier, je redonne le titre de votre ouvrage, L'abbé Berthelot, un électricien des Lumières, peut-être un jeu de mots, un électricien des Lumières en province par l'édition Hermann en mai 2008. Merci beaucoup.
Merci.